Consonance. De la page à la voix. Porte-plume. Lecture libre. Consonance. Correspondance 3. Un texte de Thibaut Dubreuil sur une lecture de Cassandra Leclerc et Enora Lenezette, du cours Charmet. La correspondance qui va être lue ici est étonnante. Ces deux femmes, qui vont échanger des lettres sur une très courte période, sont deux sportives de haut niveau. La première est Micheline Ostermeyer, une personnalité atypique puisqu'elle est à la fois premier prix de piano au Conservatoire de Paris, concertiste et athlète accompli. C'est elle qui envoie cette première lettre à son amie basketteuse, Arlette Reny. Nous sommes à Londres pour les Jeux Olympiques de 1948, où Micheline Ostermeyer a décidé de s'aligner dans trois disciplines. Le basket féminin n'étant pas épreuve olympique, Arlette Reny est restée à Paris et verra une partie des Jeux à la télé, puisque pour la première fois, les épreuves sont retransmises en direct. Cette série de lettres a voyagé par avion, grâce à Philippe, un ami de Micheline Ostermeyer, qui faisait la liaison quotidienne entre l'aéroport du Bourget et celui de Croydon.
De Londres, le 23 juillet. Ma chère Arlette, nous sommes arrivés depuis 3 jours dans la capitale britannique et avons enfin pris nos quartiers. J'écris enfin car ce ne fut pas une mince affaire. Si tu voyais cette ville. On se plaint en France des dégâts de la guerre, mais à Londres, les trous sont tellement nombreux que bientôt, la spéléologie sera discipline olympique. Quelle misère pour les habitants. Bien peu semblent se réjouir de notre venue. Je les comprends. Le rationnement est semblable à chez nous. Lors d'une courte visite, je n'ai vu que des files devant les épiceries. Et tout reste à reconstruire. J'aurais vraiment du mal à me plaindre de dormir dans une baraque qui a servi de logement pour des militaires de la Royal Air Force, alors que d'autres sont sans logis. Ce n'est guère confortable, on lit encore des graffitis sur les murs et quelques photos épinglées montrent la solitude des hommes qui y ont vécu avant nous. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais vraiment, c'est une drôle d'idée que d'avoir organisé les Jeux dans cette ville sans dessus-dessous. Je loge avec 3 autres filles. On dort sur des lits couleur kaki et assez raides. 9 casemates pour les 36 femmes de notre délégation. Et il y fait une chaleur si étouffante que nous n'y venons que le soir, préférant le stade et les pistes d'entraînement en journée. Vraiment, tout ceci ne prête guère aux réjouissances. Heureusement que mes camarades d'infortune ont le sens de l'humour. Cela me permet de supporter la queue pour prendre une douche au débit aléatoire. Et pour la première fois de ma vie, je lave mon linge. Mais d'autres sont accueillis dans des écoles et on m'a même dit qu'on a monté des tentes. Alors, en tant que bon français, nous avons pris la précaution de venir avec des caisses de nourriture. Il paraît que des athlètes brésiliens en retard pour le repas du soir ont trouvé porte close. Il n'y avait plus rien à manger. Nos légumes frais sont bien entamés et on attaque déjà les boîtes. La cérémonie d'ouverture aura lieu dans le stade de Wembley le 29. Trouve donc un poste de télévision pour la regarder. Sans doute me verras-tu. Jean Seferiade sera notre porte-drapeau, un rameur. Bon, pour ce qui est de ramer, j'espère que l'organisation sera au niveau. Bien à toi, Mich.
Paris, le 25 juillet. Salut la pianiste! Pour moi qui n'a jamais ripé hors de France, je m'attendais à ce que tu me parles du fog et de la flotte britannique. Mais je constate qu'il fait aussi chaud ici que là-bas. Au fond, je connais que dalle à ce pays et à ses mœurs. si ce n'est que je viens de comprendre quelque chose. Mademoiselle Ostermeyer a reçu une éducation britannique. Allez, je te chambre un peu. Mais il faut bien reconnaître que des filles comme toi, jouant du piano et lançant le poids et le disque, sans parler du saut, ça doit pas se voir des masses dans les rues, même pleines de trous. Tout ça est propice à ta réussite, et je sais que tu vas faire plein de médailles, comme j'enfile les paniers. Tu m'avais dit que j'aurais dû tenter ma chance, et que comme le basket féminin n'est pas encore reconnu, j'aurais dû m'aligner dans des épreuves d'athlétisme, que les qualifs étaient à ma portée. Je regrette un peu. J'aurais dû suivre ton conseil, ne serait-ce que pour voir du pays. Ça changerait un peu des Lavasses du 19e. Je ne sais pas si Colette est hébergée avec toi, mais elle courra le 200 mètres. Tu lui transmettras mes meilleures pensées. Dans l'équipe, ils ont parlé de toi, de tes futurs exploits, sur lesquels le journaliste compte beaucoup. Ils ont parlé d'une Hollandaise aussi, Fanny Blankers-Koen. Dans son pays, paraît-il qu'il y a des gens qui la surnomment la mère indigne, parce qu'elle a deux marmots et qu'à 30 ans passés, elle aurait mieux fait de rester à Rotterdam plutôt que de chausser les crampons à l'autre bout de l'Europe. T'en penses quoi ? Moi, je crois qu'elle a raison. Et j'espère qu'elle va leur faire fermer leur bouche à tout cela. Je confie ma lettre à Philippe, qui repart demain pour London. Méfie-toi des Anglais. Ils boivent du thé et d'autres boissons étranges. Alors qu'on le sait bien, toi et moi, rien ne vaut un verre de muscadet avant l'entraînement. Arlette.
De Londres, le 27 juillet. Mon ami, le grand départ approche et je dois dire que je sens monter une pression bienvenue. Une sorte de trac, comme avant que je ne commence un concert. Cela fait déjà plusieurs jours que je n'ai pas pu jouer et déjà, mon piano me manque. Je te remercie pour tes encouragements et je reconnais bien dans ta lettre le chauvinisme des journalistes, toujours prêts à voir des exploits partout, surtout quand ils sont français. Mais comme tu le sais, pour moi, le sport n'est que le complément bienvenu de mon métier de concertiste. Jouer au piano est un acte solitaire, où tout est intérieur. Même lorsque je suis contente de moi, même quand la musique m'emplit au point d'en ressentir des frissons, je me dois de ne rien montrer. Mon bonheur ne doit pas s'afficher, il reste le monopole du public. Et je me considère juste comme le média transportant cette joie. Le sport, c'est le contraire. Ici, je laisse mes chichis de côté, on rit, on court, on se plaisante. Tout est extérieur, à commencer par l'activité elle-même. Et je fais de belles rencontres. Il m'arrive même de parler mode et maquillage avec les filles. L'athlétisme est le complément indispensable à mon art, dans mon éducation de bourgeoise. Bourgeoise et anglaise aussi, comme tu l'as si bien vu. C'est ce qui me donne légèreté et recul, et pas mal d'assurance aussi. Tout cela, c'est de classe. On te l'apprend très jeune. Et je suis d'une famille de sportifs et de musiciens. Savais-tu que petite fille, ma mère a tourné les pages de Gabriel Fauré lors de l'un de ses concerts ? Et les deux se combinent bien. L'athlétisme muscle mon torse, mes bras et même mes doigts. Ma musculature renforce mon jeu et je peux frapper les touches avec autant de puissance qu'un homme. C'est indispensable quand on doit jouer un concert de 2 heures. Je jouerai d'ailleurs du Beethoven le 4 août, dans une salle londonienne. Mais pour en venir aux Anglais, tu te méprends. Ils sont courtois et bons buveurs d'à peu près tout. Et j'en ai d'ailleurs repéré un qui te plairait sûrement. Je t'embrasse, Mich.
Paris, le 31 juillet. Ah, ma Mich, j'ai vu un peu de la cérémonie, et je t'ai vu aussi. J'ai pu m'arranger avec le père Moulin qui m'a demandé de rattraper mes heures. Il est batte, même s'il paye mal. Et il a fallu que je joue des coudes pour te voir, c'était pas simple. J'ai trouvé une télévision en démonstration au BHV. Heureusement, quand la cérémonie a commencé, les gens semblaient peu intéressés, et j'ai pu avoir une place. Oh, c'était beau. Même s'il fallait écarquiller les yeux, car c'est pas encore le cinéma. Et puis, j'y suis retournée le lendemain, et là, tu m'as éblouie. Mais quel dernier lancer ! Tu as crucifié la concurrence. Si tu avais vu la tête de la fille arriver deuxième, l'italienne, la pauvre, elle croyait vraiment que c'était pour elle. Moi, je ne pense pas pouvoir lancer un ballon à 42 mètres. quand elle fait rentrer dans un panier. N'empêche, tu es la première Française à recevoir une médaille d'or au jeu. Quelle victoire ! Tu me la montreras, dis ? Quand je pense que tu n'as commencé à lancer le disque qu'au début du mois, et encore, sur l'insistance de ton père. C'est vraiment dommage que tu ne puisses t'aligner que sur 3 épreuves à cause de ce règlement idiot. Mais quand va-t-on enfin reconnaître que les femmes sont des sportives à l'égal des hommes ? Toujours à nous diminuer, à nous rabaisser comme si c'était trop dur pour nous, notre faible constitution, la barbe à la fin. Du coup, avec tes exploits, je me suis prise au jeu. Et c'est le cas de le dire. J'ai regardé les autres épreuves. Mazette, Fanny Blankers-Cohn qui gagne le 100 mètres avec une avance. Le journaliste n'a pas pu s'empêcher de parler de son état de mère de famille et d'épouse, comme si c'était ça ses qualités premières. Il a même dit « Voilà la ménagère volante !» Mais il a qu'à y aller, lui, sur la piste, qu'on voit un peu de quoi il est capable. Et puis je l'attends sur un parquet, je vais le dribbler à lui donner le tournis. Demain, je retourne au Turbin. Je sais que ta prochaine épreuve est le 4. Par chance, ça ne tombe pas un dimanche et je pourrai te voir à nouveau. Je t'embrasse. Arlette. Londres, le 2 août. Merci Arlette pour tes bons encouragements et tes félicitations. Dans mon milieu, nous ne sommes jamais surpris de rien. Tout tombe toujours à point. Et en toutes circonstances, on se maîtrise, on ne montre pas. Mais là, je dois t'avouer qu'une larme a coulé sur ma joue quand le juge a passé la médaille autour de mon cou. Ces émotions que me procure ma musique, cette joie, ce partage que je ne peux exprimer sur une scène, je me les autorise ici, loin du monde et de mon milieu. Ça fait du bien de pleurer. Chez moi, quand on souffre, on serre les dents à se noircir les gencives. Mais sur cette piste, dans ce stade, je suis un peu le moi-même que je ne m'autorise guère le reste du temps. Et pour toi qui aimes les anecdotes, j'en ai quelques-unes à te raconter. J'ai sympathisé avec Fanny Blankers-Cohn. Elle ne loge pas loin de ma baraque et nous parlons anglais toutes les deux. Je te le dis sans embâge, cette fille va tout rafler et tu seras satisfaite. Elle te vengera. Ces choses-là se lisent dans les yeux. Elle va revenir bardée d'or. Son entraîneur est aussi son mari et ils ont laissé leurs enfants aux grands-parents, qui étaient ravis, les enfants comme les grands-parents. C'est effectivement faire beaucoup de bruit pour rien dans cette affaire. Et elle m'a remercié d'avoir joué son hymne. Car figure-toi que, juste avant qu'on ne lui remette sa médaille, un organisateur est venu vers moi, complètement paniqué, me disant entre deux hoquets qu'il ne retrouvait pas l'enregistrement de l'hymne des Pays-Bas. Vraiment, j'étais sa seule option. Dans cette désorganisation, il a été plein d'assurance, faisant transporter en urgence un piano depuis une école voisine qui, par chance, possédait des partitions en pagaille. Et c'est même pas changé, suante dans mon survêtement, que j'ai plaqué les premières mesures sur cet instrument désaccordé. Des gens ont souri, mais Fanny était toute à sa joie, et c'est passé, comme ça. Savais-tu qu'elle a participé aux Jeux de Berlin et qu'elle a chez elle un autographe de Jesse Owen ? Te voilà de quoi raconter dans ta fabrique ? Tu vas faire sensation. Mich.
Paris, le 4 août.
Deux médailles ? Tu as deux médailles d'or ?
Oh, excuse mon écriture heurtée, mais j'ai achevé cette lettre en panique dans l'automobile de Philippe. Je voulais absolument qu'elle parte aujourd'hui. Et lui, il ne pouvait pas mettre son avion en retard.
Après le disque, le poids ? Et encore devant une Italienne ! Ça aurait été trop drôle que tu joues la Marseillaise au piano avec ta breloque autour du cou. Sûr que tes parents vont être fiers de toi. Mais bon... Tout ça n'arrive pas comme ça non plus, c'est du travail.
Tu as déjà été championne de France quand même, et les records, tu les as fait tomber. Et c'est vraiment injuste que tu n'aies pas pu t'aligner sur le 60 mètres, les haies et même le pentathlon. Tu aurais tout raflé. J'ai vu aussi que Fanny avait gagné l'or sur le 80 mètres haies. Quelle course ! Quelle aisance ! Tu avais bien vu la chose arriver. Elle ne va pas en rester là. Autour de la télévision, j'ai eu droit à des commentaires peu amènes sur ta personne. Ah, vous la connaissez ? Eh bien, vous lui direz que ce n'est pas la place d'une femme. Ou bien, mais quelle vulgarité ! Et regardez-moi cette musculature ! On dirait un homme ! Ça, c'est une femme qui l'a dit. Je lui ai claqué son beignet à celle-là. Elle n'est pas prête de revenir, crois-moi. Moi, je t'ai trouvée très belle, avec tes bouclettes au vent et ton mètre 79 qui s'élance. Cette tension, les muscles saillants, ton visage concentré, les yeux portés vers l'exploit, la victoire ! C'était beau comme l'antique. Quand l'athlétisme te lassera, je te trouverai une place dans mon équipe de basket. Je t'en mets à l'être à Philippe. À bientôt, Arlette.
Londres, le 4 août dans la nuit. Eh oui, ma belle, j'en ai deux. Pour un peu, je commencerai à m'y habituer. Mais en vrai, on ne s'y habitue pas. Et je sais qu'une carrière de sportif de haut niveau ne dure guère. Mon vrai métier m'attend, mais en attendant, je sais savourer ces instants. D'autant que nous sommes visités par pas mal de filles, même étrangères. Avec mes deux médailles et celle en bronze de Jacqueline, on parle même de la baraque qui porte chance. Il y a des filles qui passent juste pour toucher le bois de la porte. Des fois que... Il me reste la dernière épreuve de saut en hauteur. Je me suis bien préparée car je sais la concurrence féroce. Elle aura lieu le 7. Mais mon véritable exploit, c'est du moins comme cela qu'on l'a qualifié, c'est d'avoir joué ce soir au Royal Albert Hall. Pour les gens, je suis une incongruité. Ils se demandent comment on peut être à la fois concertiste et médaillé olympique. On me questionne là-dessus. J'ai même répondu à une interview d'un journaliste américain. Il trouvait cela anormal, comme si j'avais refusé de choisir. Si tu ajoutes à cela les faiblesses prétendues de notre sexe, ça fait beaucoup. C'est ce que les gens ont du mal à saisir. Mon milieu n'est pas celui des autres athlètes. Je ne viens pas des rues de Los Angeles, je n'ai pas grandi dans quelques banlieues ouvrières d'Angleterre ou dans une campagne italienne, non. J'ai toujours vécu dans le luxe. Le centre de Paris, nos propriétés un peu partout, je n'ai pas nécessité impérieuse de travailler et après les Jeux, je prendrai quelques semaines de vacances en Bretagne, alors que les autres retrouveront leur quotidien. Je suis une exception terriblement normale. Ce soir, donc, j'ai joué. Ce concert était prévu de longue date. L'heure de Berthley, qui organise les Jeux, m'a contacté quand il a lu mon nom sur la liste des athlètes engagés. Il connaît mon grand-père et a réservé l'Albert Hall en me demandant des sonates de Beethoven, son compositeur préféré. Mais c'est moi qui ai fixé la date du 4 août, bien avant l'épreuve de saut en hauteur, qui souvent me fatigue les bras. La salle était comble, tout un parterre venu voir l'exception. Quand un jour je ne m'entraîne pas, je l'entends. Quand deux jours s'écoulent sans que je fasse mes gammes, c'est le public qui l'entend. Là, ça faisait bien 3 semaines que je n'avais pas touché à mon piano. Et je ne te cacherai pas que j'aurais fait mieux avec 2 cuillères en bois et une batterie de casserole. Micheline.
À cette lettre, Arlette n'aura pas le temps de répondre. Lorsque ce 5 août, Philippe, le pilote qui faisait la liaison entre Paris et Londres et transportait les lettres, arriva dans l'usine où Arlette travaillait, il la trouva, faisant une pause au dehors. Joint à cette lettre se trouvaient des tickets d'entrée pour le stade de Wembley et une place dans le vol de 14 heures. Le petit-fils d'Arlette me confia qu'elle suivit Philippe en hurlant de joie, sous les applaudissements de quelques collègues et la colère d'Émile Moulin, qui la menaça de la mettre dehors si elle ne reprenait pas son poste immédiatement. Grâce à la complicité de Philippe, Arlette voyageait sans passeport, elle embarqua pour ce qui fut son premier voyage en avion. Dans le stade de Wembley, elle put voir le record de Fanny Blanquer-Skeun. Après le 100 mètres et le 80 mètres haies, celle-ci remporta le 200 mètres et le 4x100. Historiquement, elle fut la seconde athlète multimédaillée au JO, juste après Micheline Ostermayer, mais avec plus de médailles. De fait, avec ses 4 médailles d'or, Fanny Blanquer-Skeun finit première, devançant 3 hommes dans le classement final par athlète. Arlette assista, avec une soif de sport qu'elle ne put épancher, aux épreuves de hockey sur gazon, de lutte, d'équitation, de canoë-kayak et même de football, courant d'une compétition à l'autre, découvrant les métros en panne et les trains en retard. Mais elle vit aussi du tir, de la natation et bien entendu du basketball, où elle assista, médusée, à la médaille d'argent de la France, humiliée 65-21 face aux États-Unis. Et c'est en se rendant au Grand Parc de Windsor, voir une épreuve de cyclisme sur route, qu'elle rencontra celui qui deviendra son mari, Gordon Thomas. Le 7 août, elle était bien sûr dans le stade de Wembley et encouragea Micheline dans l'épreuve de saut en hauteur. Celle-ci finit troisième, avec un saut à 1,61 m. Alice Kochman gagna l'épreuve. Elle fut la première femme noire à remporter une médaille d'or. En plus de ses 3 médailles olympiques, Micheline Ostermayer fut 12 fois championne de France dans 6 disciplines différentes. Elle arrêta le sport de haut niveau en 1951 à la suite de blessures à répétition et se consacra jusqu'à la fin de sa vie à son art, jouant dans de grandes salles, enseignant le piano dans des conservatoires et pratiquant le basket pour le plaisir. C'est elle que nous entendons. Interpréter la sonate numéro 2, opus 36, second mouvement, de Rachmaninov. Toutes les personnes qui l'ont rencontrée parlent d'une femme modeste et paisible. Elle est morte en 2001.